presque rien sur presque tout. Une émission de Patrick Ferlin.
Bonjour à tous. Trois comédiens magnifiques sur scène, Mauro Bellucci, Edmond Villoux. Philippe Manta, c'est le gardien de Harold Pinter au théâtre Kléber Mello, un spectacle étincelant, trois personnages lancés à la poursuite de rêves chimériques. Philippe Manta nous rejoint un peu après la demi avec les invitations à découvrir ce spectacle événement visible au théâtre Kléber Mello de Renan, près de Lausanne jusqu'au 10 avril. Philippe Manta, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais bien, merci. Et vous ?
Très bien. Ravi de vous retrouver. Qu'aimez-vous tant, Philippe Manta, dans le théâtre de Harold Pinter ?
Oh, il y a tellement de choses. J'aime son intérêt, son observation des personnages qu'il met en scène, son inspiration à partir de la vie et sans phare, avec une précision extrême. Et puis cette espèce de compassion dont il fait preuve vis-à-vis de ses semblables, indépendamment de toute forme de jugement.
Le gardien, donc, au théâtre Kléber Mello, on y revient dans une trentaine de minutes. D'ici là, vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Umberto Eco. 30 ans après Le nom de la rose, Le pendule de Foucault et beaucoup, beaucoup d'autres livres, Umberto Eco signe Le cimetière de Prague. 500 pages sous la forme d'un roman feuilleton illustré de vignettes. 500 pages de complots, de manipulations, de messes noires, portraits d'un bouc émissaire où à chaque fois, c'est le contraire qui est vrai, jeu de rôle au ton léger qui met le doigt sur certains fléaux de notre époque, le racisme, les pouvoirs occultes, le mensonge, l'hypocrisie. En revisitant ce genre littéraire disparu qu'est le feuilleton, Umberto Eco aborde des thèmes dangereux, très actuels. Son livre explique pourquoi, par exemple, certains sont d'avis que la haine réchauffe le cœur des hommes. Le cimetière de Prague a suscité, on va y venir, la controverse, c'est qu'il traite d'une conjuration planétaire qui tendrait à installer un pouvoir absolu sur tous. Un livre dont l'action se déroule à Paris, à Palerme, à Turin, au XVIIIe siècle et qui allie divertissement et ambiguïté. Avant d'évoquer avec Umberto Eco, nous avons rencontré mardi à Paris la tension de ce roman, je lui ai demandé de vous dire qui lui avait donné un jour le goût de l'histoire.
Mais si je vais gratté de mon passé. Je m'en souviens que spécialement lorsque j'étais malade, j'avais la typique maladie de l'enfance. Il y avait mon père qui le soir, assis auprès de mon lit, me racontait l'histoire de Fagiolino, alors que ce sont ces haricots avec une espèce de point noir au sang. Alors, c'était un petit haricot qui voyageait dans le monde, avait des aventures. C'est pour ça que lorsque je suis devenu père à mon tour, je racontais à mes enfants pas l'histoire de Fagiolino, mais c'était trois ours dans un ballon qui voyageaient, un peu Jules Verne, qui voyageait à travers le monde. Donc, non, ça. L'autre, c'est ma grand-mère maternelle qui était une femme de culture nulle. Je crois qu'elle avait fait les cinq écoles élémentaires comme tout le monde. Mais après, elle était une lectrice farouche. Elle était abonnée à une bibliothèque, ce qu'à l'époque n'était pas tellement normal. Et elle lisait, lisait, lisait. Elle pouvait lire Balzac et en même temps un roman d'amour comme ça. Elle donc m'a prêté beaucoup, beaucoup de livres où elle m'a raconté comme il était beau ce roman-là. Là. Troisième, mon grand-père paternel était typographe. Et lorsqu'il est allé en retraite, il était devenu, un peu comme un hobby, un peu peut-être pour gagner de l'argent, relieur de livres. Alors j'allais chez lui et je voyais nous relier de tous ces romans du 19e, les Trois Mousquetaires, avec les illustrations, et j'étais fasciné. Lorsqu'il est mort, peut-être qu'un tas de gens qui lui avaient donné des livres, mais c'était des livres populaires reliés, n'ont pas demandé de le réavoir. Enfin, un jour, en bouquinant dans la cave où on m'envoyait prendre le charbon, j'ai trouvé une énorme caisse pleine de ce livre du 19e, non relié. Et je les ai dévorés à tel point qu'ils ont disparu pratiquement détruite par le maniement continuel. C'est seulement comme adulte que je suis allé chez tous les bouquinistes du monde pour les retrouver, un par un.
Vous avez, ai-je lu, nous reviendrons dans un instant au cimetière de Prague, Umberto Eco, c'est quelques 50 000 livres. Qu'est-ce qui vous attache au livre dont vous dites qu'il est parfait?
Mais, vous savez, il y a des gens qui aiment escalader les montagnes, hein, et des autres qui aiment les livres. Ça, c'est quelque chose qui commence dans l'enfance. Je vous ai raconté quelques sources de ma passion. Je n'aurais pas 50 000 livres si les éditeurs n'envoyaient pas toujours des livres en hommage. J'en aurais beaucoup moins. Et d'ailleurs, le fait de les avoir réduits à 50 000 dépend du fait que chaque mois j'envoie un tas énorme de livres, de doubles, de livres qui ne m'intéressent pas à l'université pour les donner aux étudiants. Parce que sinon, on est submergé par les livres. J'étais obligé à changer d'appartement 3 fois dans ma vie parce que l'appartement s'écroulait. Finalement, j'achetais une maison dans la campagne qui a 2 salles abandonnées énormes où je peux enfoncer là tout le livre. Donc, à Milan, dans mon appartement, j'en ai seulement 30 000. C'était une chose plus modérée.
Cette maison est un monastère, un vieux monastère?
Ah, la maison de... Non, ça c'est un peu la légende. Non, c'était la maison de résidence de la famille qui avait toutes les terres autour. Mais qui avait même une chapelle qui est restée là. Mais après, le dernier rejeton de la famille, c'était un jésuite qui, aux années, je crois, 50, avait amené là une communauté de jésuites pour 10 années. Après, il avait abandonné. Alors, de là est venue l'idée que c'était un monastère, probablement parce que la route de campagne s'appelle Via Convento, rue du couvent. Mais en référence peut-être à un autre couvent.
L'objet livre, on parle beaucoup, vous le savez, Umberto Eco, des nouvelles lectures numériques. Qu'en pensez-vous?
Je crois toujours que l'invention d'un nouveau moyen ne tue pas le précédent. C'est-à-dire la photo n'a pas tué la peinture et le cinéma n'a pas tué la photo et la voiture n'a pas tué la bicyclette. Il y a des choses qu'on pourra faire très bien avec l'iPad. Par exemple, dès qu'on devient vieux, on préfère de lire le journal avec des caractères plus grands, avec un moyen électronique, on peut le faire. Et je pense que je le ferai. S'il faut transporter des bibliographies énormes, des dictionnaires, des documents, ça c'est vraiment l'idéal. L'idée qu'on puisse l'employer pour lire un roman, La guerre et la paix, à moi ça m'a fait un certain effet. Mais
pourquoi est-ce que cela vous fait un certain effet?
Parce que j'ai l'impression que mes yeux deviennent de balles de tennis. Mais peut-être que la nouvelle génération sera adaptée à cette façon de lire. Il y a seulement 2 éléments dont il faut tenir compte. On en a parlé avec Jean-Claude Carrière dans cette conversation qu'on a fait. Ne croyez pas vous débarrasser des livres. C'est que nous n'avons pas de preuves scientifiques qu'un support électronique dure plus que. Un livre, nous avons des incunables qui ont 550 ans et ils semblent imprimés hier avec un papier d'une fraîcheur. Donc ça veut dire que le livre, c'est un instrument pas mal pour transporter l'information. Pour tout le support électronique, nous ne savons pas comment il dure parce que les ordinateurs changeants chaque 3 ans, ils ne lisent plus. Donc on n'a pas de preuves scientifiques de la durée de ce support. Et donc le livre, c'est encore une garantie. Deuxième, il y a le rapport presque physique, charnel, érotique avec l'objet. Pas nécessaire d'être un grand collectionneur de livres anciens, mais si vous descendez dans votre cave, vous trouvez votre livre de lorsque vous aviez 10 ans, avec les signes que vous avez faits aux marges, c'est une émotion si vous trouvez la disquette. C'est rien. Et qui a dit le livre est le meilleur ami parce que il ne parle pas et en tout cas on peut le faire taire lorsqu'on veut.
Pour l'auteur, écrire en sachant qu'il écrit pour une lecture numérique, est-ce que cela ne va pas changer finalement la littérature ?
Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas écrit un roman pour la lecture numérique. Mais lorsque j'écris un essai, je sais qu'il finira même sur l'ordinateur et ça ne change pas. Selon moi, ce qui changera en partie notre façon d'écrire, c'est le fait d'écrire sur l'ordinateur. Pas tellement la lecture, mais la production. Je vous fais un exemple. L'ordinateur nous permet de déplacer des blocs entiers de la fin au début. Or, lorsque nous écrivons, nous lions les périodes, les blocs par des cependant, mais au contraire, toutefois. Lorsque vous commencez à dépasser les blocs, ces adverbes ne fonctionnent plus. Parce que vous dites cependant, mais c'est... Alors, vous êtes porté, amené de façon imperceptible à les éliminer. Donc, à éliminer une certaine consecutio temporum à la latine, que dans la distance de deux générations peut changer, je dirais, la syntaxe. Deuxième, elle change la façon d'écrire parce qu'elle permet une correction continuelle. Lorsque j'écrivais les noms de la rose, que l'ordinateur n'existait pas encore, j'écrivais des parties à la main, des autres à la machine écrire. Après, je corrigeais avec le ciseau, je coupais avec, j'en collais. Mais la troisième fois, j'arrêtais, c'était fini. Avec l'ordinateur, je peux continuer à corriger. Ça, d'un côté, peut perfectionner le style, de l'autre côté, le ruiner parce que la correction excessive tue la spontanéité.
Venons-en maintenant, Umberto Eco, à ce nouveau roman, Le cimetière de Prague, qui sort de presse cette semaine. C'est un roman qui suscite la controverse. On vous a accusé parfois d'antisémitisme. Alors comment vivez-vous tout cela et cette controverse ? Est-ce que, au fond, vous la souhaitiez ?
Mais avant tout, je dois dire une chose, que c'est un produit médiatique. Il n'y a pas eu de controverse. C'est-à-dire qu'en Italie, sur 30 articles qui sont parus, beaucoup d'entre eux écrits par des intellectuels juifs, il y a eu 3 critiques que ne disaient pas, comme je trouvais après sur la presse espagnole, sur la presse française, parce que vous savez, lorsque la nouvelle voyage, ça commence à grandir, ils ne parlaient pas d'antisémitisme, naturellement, parce que c'est toute ma vie, mon Dieu, que je me bats contre le racisme. Il disait, il y a le danger que des lecteurs naïfs peuvent être. Mais 3 articles. Et on a parlé seulement de ça. On n'a pas parlé des autres, où les plus intéressants intellectuels juifs, italiens, professeurs d'histoire, rabbins de Rome, ont pris des positions. Mais, comme j'ai raconté hier à un de vos collègues, si Homère écrivait aujourd'hui l'Iliade et quelqu'un découvrait qu'il est cocu, la nouvelle à la une, ce serait Homère est cocu, pas Homère écrit l'Iliade. Quant à cette objection, vous savez, tout le matériel dont je parle est sur Internet, et dans les librairies occultistes qu'on trouve partout, et même un enfant peut le trouver. Si je fais quelque chose, a été de montrer comme il est contradictoire et grotesque. Donc, je ne crois pas qu'un lecteur normal puisse lire mon roman, sinon dans la façon où je l'ai conçu, c'est-à-dire, j'essayais de démasquer la production d'infos. La quantité de lecteurs non normaux est, en tout cas, plutôt haute, mais ça, on ne peut pas l'éviter.
À l'origine, Umberto Eco, qu'est-ce qui a inspiré ce roman? Je veux dire, est-ce qu'il y a un événement, par exemple, actuel qui l'est inspiré, dans la mesure où, finalement, vous nous parlez du 18e et du 19e siècle, mais quelque part, finalement, c'est un roman très actuel d'aujourd'hui.
Donc, il n'y avait pas d'inspiration liée directement à l'actualité, dans le sens que c'est plus que... Vous avez mentionné mon pendu de Foucault, c'est depuis le pendu de Foucault que je reviens sur l'histoire des protocoles, aussi parce que je suis convaincu d'en avoir découvert une source inédite qui est Joseph Balsamo de Dumas. Après, j'écris deux essais, la préface au livre de Willy Eisner sur le complot. J'ai travaillé toujours autour de ce thème qui m'a toujours touché, par un double fait. L'un, que le texte, parce que personne ne va pas lire les protocoles, on les nomme, on les mentionne. Le texte est tellement autocontradictoire que c'est, et que du moment qu'il a été démontré faux, 1921, sur Times de Londres, on a commencé à le croire vrai de plus en plus. Donc c'est un des phénomènes les plus embarrassants du monde. C'est pour ça que le fait qu'en l'écrivant, en essayant d'imaginer comment pouvaient fonctionner les faussaires, les services secrets, je me rendais compte qu'il ressemblait beaucoup à des choses qui se passent aujourd'hui, ça vient presque naturellement, parce que soit le racisme, le préjugé, la construction de l'ennemi, les rapports des services secrets sont toujours les mêmes, 18e, 19e, 20e. Remarquez que mon roman a paru avant qu'il y avait l'explosion des Wikileaks et de l'affaire Assange, qui va démontrer exactement ce que je raconte, qu'aux services secrets, on vend seulement des choses qui ont été déjà publiées.
Qu'est-ce qui vous fascine? Parce que je crois qu'on peut parler de fascination, Umberto Eco, dans le protocole des sages de Sion, qui est donc cette Bible de l'antisémitisme, on va le rappeler, qui est parue en Russie en 1903, comme vous nous le disiez à l'instant. Vous évoquiez déjà le protocole des sages de Sion dans le pendule de Foucault, et vous y revenez dans ce roman.
Oui, non, il n'y a rien qui me fascine dans le protocole en soi, parce que vraiment ce sont... un texte complètement farfelu qui mêle les choses les plus invraisemblables et des choses très raisonnables. Lorsque les protocoles disent il faut s'emparer de la presse et à travers la presse influencer, oui, c'est vrai, sauf qu'ils disent que ça appartient au complot juif, mais sinon, c'est, on pourrait l'appliquer même aux hommes politiques contemporains. Lorsque dit il faut faire devenir les gens bêtes en leur donnant du sport, du théâtre, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui.
À qui pensez-vous?
Ah, Murdoch.
Est-ce que vous pensez aussi à Silvio Berlusconi?
Mais oui, ça vient, oui, c'est naturel. Donc, c'est pas tellement le protocole, mais toute l'histoire de l'antisémitisme 19e, où il y a... C'est pas par hasard que j'intitulais mon livre « Au cimetière de Prague ». L'histoire du cimetière de Prague est inventée par un espion allemand, Goetz. Hein. Dans mon roman, évidemment, c'est mon personnage qui l'invente, et Goetz, en étant un misérable, j'ai pu lui attribuer même ce plagiat. Alors, il a copié le texte de Simonini. Mais ce qui est vrai est que cette scène du cimetière de Prague, que Goetz avait publié sous le nom de plume de Radcliffe, Sir John Radcliffe, est reprise au moins 3-4 fois dans la revue des Jésuites, sous des formes différentes. La deuxième fois, Radcliffe devient le nom du rabbin. La troisième fois, et de plus en plus comme une histoire vraie. C'est-à-dire, on produit un élément romanesque qui n'est pas même un faux, parce que c'est un roman, hein, et immédiatement, il vient réemployer, réutiliser pour créer des effets de réalité, et ça au long du siècle entier. Donc, enfin, les protocoles sont un peu le produit final de cette production continuelle de faux.
Mon époque broie du noir qu'elle étale sur ses cils, des pétales à ses lèvres, elle séduit ses amants, s'abreuve des tendres gens qu'elle effrite au couteau, s'enrichit sur le dos de nos jolis printemps. Mon époque, mon époque, mon époque, mon époque. Mon époque voit son ciel avaler la fumée de nos sanglots d'hiver, de nos salaires crachés, qu'elle piétine seins nus en récitant la peur. Même la mort se couche quand elle montre son cœur. Mon époque, mon époque, mon époque, mon époque. Mon époque ne joue pas, elle jouit puis basta, en se payant la bagnole, en matant ses chaussures. Mon époque a le style freedom business, power équitable entre tyrans qu'elle fidélise. De remise en remise, en remise en remise. Mon époque, mon époque, mon époque, mon époque. Et toi dodo, dis-moi ta journée. Tu veux qu'on change les idées. Du coin du lit qu'on regarde la nuit tomber. Promis, promis, ça va changer. Encore un verre copain, encore à boire, allez. Qu'on s'envole au plus loin, craquer de liberté. Qu'on revienne, peut-être, quand elle prendra congé. Mon époque, mon époque, mon époque, mon époque, mon époque, mon époque.
Mon époque, chantait Cyril Moquèche. Merci d'avoir choisi la première de la RTS pour ce début d'après-midi avec, dans une quinzaine de minutes, je vous le rappelle, Philippe Manta pour Le Gardien au Théâtre Kléber-Mello à Lausanne près de Renan. Mais retrouvons Umberto Eco. Le cimetière de Prague chez Grasset sort cette semaine. Vernissage de ce roman feuilleton sur le thème du complot lundi soir au musée Grévin à Paris. Le vrai, le faux et vice versa. Alors qu'avez-vous pensé, Umberto Eco, du choix de ce musée de masques et de cire?
Oui, mais c'est pas moi que je l'ai choisi. Et je me disais, lorsque je sus qu'on aurait fait ça, ah bon, oui, parce que mon roman, c'est un peu feuilleton, donc...
Vous renouvelez l'art du feuilleton.
Et alors, peut-être on l'a fait en face des Jacques Léventreur, des gens... Au contraire, j'ai vu que maintenant, le musée a été complètement refait. Et c'est pas tellement les petites scènes célèbres, autant qu'on en porte le vent, Jacques Léventreur, mais la présence continuelle de personnages connus et qu'on a l'impression qu'ils soient, et spécialement dans une soirée où il y avait, c'est pas 200 personnes, ouais, on comprenait plus qui était vrai et qui était faux. Alors, dans ce sens-là, ça semblait conçu exactement pour mon roman.
Alors, dans votre roman, finalement, le faux semble donc devenir le vrai. C'est l'une des thématiques de votre roman, Le cimetière de Prague. Pour l'écrivain que vous êtes, comment s'y retrouve-t-on?
Vous voyez qu'il y a une différence fondamentale entre le faux et la fiction romanesque. On a élaboré la différence entre mentir et faire semblant. Si on fait une fête de carnaval et moi je me déguise comme Zorro et vous comme Hamlet, hein, tous les deux nous savons bien que vous n'êtes pas le prince de Danemark et moi je ne suis pas Zorro. Mais on fait semblant d'y croire comme les enfants lorsqu'ils font poum-poum avec le fusil. Tandis qu'en faux, c'est une mensonge qui prétend d'être cru comme vrai. Donc... il y a une différence fondamentale entre la fiction romanesque et la production de faux. Sauf dans des cas, comme j'ai été en train de mentionner, les cas de Goethe, qui fait de la fiction, mais les autres l'emploient comme s'il était la vérité. Mais ce sont des cas malades, ce sont des cas de maladie de la croyance. Après, on a fait des autres objections à mon livre, mais dans un univers où tout est faux, mais alors il n'y a pas de vérité. Je crois que pour dire que quelque chose est faux, il faut avoir une conception de la vérité. Sinon, on ne peut pas accuser quelqu'un d'être un faussaire. Si vous me présentez ici la Joconde, et je vous dis que vous êtes un faussaire parce que je crois que celle qu'il y a au Louvre est la bonne. Sinon, si je n'avais pas cette idée de la vérité, peut-être erronée, la Joconde du Louvre est à son tour un autre faux. Mais j'ai un point de repère qui est la Joconde du Louvre, donc je dénonce la vôtre comme fausse.
Être écrivain, Umberto Eco, c'est être quelque part enfant.
Dans la mesure où les enfants aiment les histoires, et ils racontent toujours des histoires, oui, être écrivain serait trouver une forme de bonheur enfantine. C'est pour ça que, par exemple, mes livres durent d'habitude 6 ans, sauf Le Pendule qui m'a pris 8 ans, et je ne voudrais jamais les terminer, parce que la chose la plus amusante, c'est cette période de construction d'un univers complètement imaginaire. Donc, on est dans la même situation de l'enfant qui joue et qui dit « je suis le général, je suis le capitaine du navire », et il vit dans son monde. Et après, malheureusement, il devient adulte, sauf s'il reste écrivain.
Si mes informations sont bonnes, Umberto Eco, vous écrivez le week-end parce que vous philosophez la semaine.
Oui. Il faut répondre aux questions posées par les journalistes. Alors il faut trouver la réponse la plus stupide parce que ça marche.
Vous voulez corriger ?
Mais non, ce qu'il y a de vrai, c'est que pour le roman, tandis que pendant l'activité normale, je continue à recueillir des documents, j'écris d'une façon plus tranquille les périodes où je suis à la campagne, c'est vrai. Donc les vacances de Pâques, de Noël, l'été, bien que ce n'est pas une vérité dogmatique, voilà. Il peut arriver que j'écris même en ville. Mais d'habitude, oui, il y a cette division du travail.
Pour ce roman, il y a un personnage, c'est le seul personnage, un personnage de fiction, espion et faussaire, qui s'appelle Simone Simonini. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a un travail de recherche et de documentation totalement exemplaire.
Oui, j'ai travaillé, oui, comme un fou. J'ai mis ensemble, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 rayons de ma librairie avec tous ces matériaux de l'époque. Je parle de Taxil et de sa revue Le Diable au 21. J'ai trouvé la collection complète. Je parle de Drummond, de la France juive. J'ai trouvé la première édition, tous ces pamphlets de l'époque. Oui. Et là, il y a aussi un côté passionnant de cette recherche.
Simonini, cela étant, est petit-fils du...
Alors, il y a un Simonini qui est personnage historique. Peut-être il n'a jamais existé, mais il est un personnage historique. C'est-à-dire que l'abbé Baruel, à la fin du XVIIIe, avait écrit un énorme livre en 3 volumes pour démontrer que la Révolution française était le résultat d'un complot des Templiers, des Illuminés bavarois, toutes ces choses-là. Naturellement, de Voltaire, Diderot, mais complot mystérieux. Mais il ne parlait pas des Juifs. Un dit capitaine Simonini lui a écrit de Florence en disant « Monsieur l'abbé, vous avez oublié les Juifs ». Et dans cette lettre, pratiquement, il met ensemble tout ce qui deviendra le poncif pour le préjugé antisémite. On ne sait rien d'autre de ce capitaine Simonini, sauf que sa lettre a été republiée 2 ou 3 fois au cours du XIXe siècle comme preuve de... Et donc, il aurait pu même être le résultat d'un faux à son tour. Mais en tout cas, historiquement, il y a ce capitaine Simonini. Et donc, moi, je fais naître mon personnage de cet ancêtre illustre qui lui transmet sa haine raciste.
La haine réchauffe le cœur, est-il écrit?
Oui, il ne faut jamais confondre les opinions de personnages avec les opinions des auteurs. Mais oui, il y a ce discours du Ratchkovski, le chef de l'espionnage russe, qui dit, bon, il faut dire ce que nous savons très bien, il faut toujours construire un ennemi. Hitler ou Mussolini ont fait ça, Gaddafi en ce moment est en train de dire qu'Al-Qaïda donne la drogue à ces jeunes gens qui font la révolution. Il y a toujours l'ennemi. Et il dit, parce que, oui, les sentiments les plus élémentaires, c'est la haine, pas l'amour. On a tué Jésus-Christ, justement, parce qu'il parlait contre nature.
Vous citez Kadhafi, il fallait intervenir en Libye.
Vous savez, je suis par vocation un pacifiste, je ne voudrais jamais faire la guerre. On était dans une situation que, s'il reprenait le pouvoir, il pourrait faire des choses complètement folles. Donc, peut-être comme action de police. C'est dangereux parce que ça peut reproduire le colonialisme.
Votre personnage, cet espion, ce faussaire, Simone Simonini, comment l'avez-vous inventé?
Comme ça. Comme il écrit dans les livres. Ouais, je suis de l'opinion, je ne suis pas le seul, que lorsque vous posez des éléments préalables, alors, ce type vit à Turin. Il est le descendant d'un antisémite historique. Fini. De ce point, en avant, le personnage voyage par lui-même, avec sa propre logique. Vous devez seulement obéir à sa logique. Il y a des choses qu'il pourra faire, des choses qu'il ne pourra jamais faire. Et selon moi, les romans sont des machineries, des objets qui se construisent par eux-mêmes, et l'auteur ne fait que suivre, pour ainsi dire, la logique interne des événements.
Et c'est-à-dire que vos personnages, parfois, peuvent vous échapper?
Oui, ils peuvent échapper, ils peuvent... Je crois que l'origine de beaucoup de livres, de romans mal réussis, sont dus au fait que le personnage a échappé de main de l'auteur qui n'a plus su le contrôler.
Comment fait-on?
Ah, ça c'est le grand secret. Comment fait-on à nager? On vous jette dans l'eau et vous apprenez à nager.
Vous vous souvenez du jour, Umberto Eco, où vous avez commencé à écrire?
Moi, j'avais 8 ou 10 ans. Ouais. Et j'essayais d'imiter les romans d'aventure que je lisais. Donc, je commençais à faire la page du titre, après toutes les illustrations. Après, j'ai commencé le premier chapitre, mais pour donner l'impression que c'était un livre vrai, j'écrivais en majuscule. Et après 3 ou 4 pages, j'en pouvais plus. Et donc j'arrêtais. Donc j'étais à cet âge-là, l'auteur, comme Schubert, de beaucoup de symphonies inaccomplies.
Si je vous dis, Umberto Eco, que votre personnage, qui est un anti-héros dans ce roman, est finalement un personnage peut-être le plus exécrable de l'histoire littéraire. Mais si je vous dis qu'il y a un mais dans la mesure où le lecteur peut-être s'y attache, que me dites-vous?
Je vous dis que c'est normal. Le lecteur s'attache à Fantomas, à Arsène Lupin, qui n'est pas le voleur gentleman. Mais c'est un cambrioleur misérable qui va dévaliser les appartements. Le lecteur s'attachait à Rocambole, qui était exécrable autant que Simonini. Le lecteur peut s'attacher à Raskolnikov. Mais ce n'est pas qu'après ça, vous allez tuer une vieille dame. Donc vous pouvez vous identifier avec le personnage négatif. Heureusement, parce que ça vous permet de le comprendre, mais sans le justifier. Donc... C'est normal, aussi dans le sens qu'un livre qui raconte seulement des personnages vertueux, exemplaires, c'est ennuyeux, personne. C'est normal, c'est une participation normale, ou même au cinéma, parfois, nous participons à l'histoire du méchant.
Pour servir la loi avec compétence, est-il écrit, il faut l'avoir violée.
Ah oui, mais c'est l'histoire de Vidocq. Ouais, mais c'est évident. Ici en France, vous en avez un exemple historique où le 19e, le chef de la police devient chef de la police, un ancien forçat. Hein. Et il s'est passé plusieurs fois. Même ce Ratchkovski dont je parle, aux origines, paraît-il, avait participé à des groupes terroristes. Et après, il devient le principal grand ennemi des terroristes russes. Donc, cette espèce de marécage imprécis entre le crime et la défense de la loi est présent dans l'histoire.
Une histoire qui est extrêmement violente, parfois très érotique, et dont une grande partie de l'action se déroule ici même, c'est-à-dire à Paris.
À Paris, oui. Si on veut faire un livre qui a l'air d'être un feuilleton, Paris, c'est la capitale idéale du roman feuilleton. Deuxième, Paris a été un des centres de la production de l'antisémitisme 19e. Je voudrais dire plus que l'Allemagne. L'Allemagne reçoit, c'est Paris et c'est la Rome vaticane. Troisième, Paris, c'est la ville que j'aime, que je connais mieux que toute autre ville. Plus que Milan où je vis, oui, c'est plus facile que je sais les noms d'une rue à Paris qu'à Milan. J'ai pris beaucoup de goût à retrouver même les vieilles maps, les cartes de la ville avant Haussmann, après Haussmann, et choisir le quartier de la Bièvre parce qu'il avait résisté à l'éventrement haussmannien. Et après, il y avait le livre très beau de Wiesmann sur la Bièvre et Saint-Séverin. Donc, c'est un endroit où je vais encore me promener parce qu'en retrouvant, oui, l'impasse où il y avait la boutique de Simonini, il est encore là. On peut même dire la boutique était là.
Est-ce que l'un des objectifs avec ce roman, Umberto Eco, n'est pas de dénoncer les formes transcendantales du complot ou des complots?
Mais oui. Oui, j'en parle. Je dis que lorsque Dumas a imaginé le complot sur le Mont-Tonnerre, avec lequel Cagliostro a fait tous les plans pour la Révolution française, c'est vraiment la forme transcendantale du complot. J'avais même mis une note qu'après j'ai enlevée, qu'on pourrait, si on était philosophe, l'appeler, et j'avais mis le mot allemand das transcendental. Et c'était exagéré. Mais oui, c'est la forme pure de toute fantaisie du complot.
Une manière de dire aussi que tout cela pourrait arriver?
Non, j'ai des idées très claires sur les complots. La vie est pleine de complots. Mais on le sait immédiatement. Soit qu'ils réussissent, soit qu'ils font faillite. Deux exemples historiques. Pour assassiner Jules César, il y a eu un complot. Mais on l'a su les jours après. Catiline faisait un complot, mais Cicéron l'a dénoncé les jours avant. Le complot. S'ils sont là, il vient à la surface. Ce qui reste mystérieux et secret, c'est le complot paranoïde, le complot universel, ce gros secret qui domine l'histoire, qui décide. Ça c'est la paranoïa du complot. Et sa force, c'est dû au fait qu'il n'existe pas. Sinon, on le saurait.
Umberto Eco, je vous remercie de ce moment.
Il y a eu le complot de la P2, vous savez, cette loge maçonnique. On l'a su très bien. Maintenant, ils sont tous au gouvernement, donc il a eu un succès.
Je vous remercie de ce moment de conversation, Umberto Eco. Vous allez retrouver l'Italie bientôt. Quelle Italie?
Espérons dans l'Italie de demain.
C'est-à-dire?
À une Italie meilleure de celle d'aujourd'hui.
Parce que récemment, vous avez demandé la démission de Silvio Berlusconi.
Oui, mais vous ne devez pas poser la question à moi, mais à lui.
Radio Suisse Romande, la première, presque rien sur presque tout.
Vorrei sdraiarmi sotto un bel fico evanescente. E ormai è sfinito qui. seguire un punto all'infinito, fino a che tutto sia un po' più chiaro. Mi sono fatto male oggi bucando il cielo, così ricordo d'essere vivo. Che alla fine mi manchi addosso oramai. Che alla fine manchi anche adesso tu mai. Alla fine sopra un bel prato vorrei svanire e ricordarti di ricordare che cosa siamo diventati, caro mio dolce amico. Siamo caduti bucando il cielo.
Voilà l'Italie de Zucchero et vous voici Philippe Mantard, bonjour.
Bonjour.
Le gardien de Harold Pinter, donc au théâtre Kléber Mello, je le disais en début de rencontre, trois comédiens magnifiques, Mauro Bellucci, Edmond Villoux et vous, Philippe Mantard, dans le rôle d'un clochard, trois personnages en quête de rêves chimériques, portraits sans phare d'une société qui brise les êtres et anéantit les utopies. C'est un spectacle où l'absurde côtoie l'ironie, la gravité et le rire. Alors pour partager, pour l'avoir applaudi, une grande soirée de théâtre, quelques invitations à vous offrir. Là tout de suite pour ce soir et demain soir, vous jouez à 20h30.
Oui.
Monique attend vos appels au 058-236-1900. 058-236-1900. Vous avez monté, Philippe Mantard, plusieurs pièces de Harold Pinter.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fait revenir à Pinter ?
Quand on admire quelqu'un, on a toujours envie de l'approcher de plus près. Et avec l'âge d'une part, en montant d'autres pièces d'autre part, eh bien on espère avoir des chances de mieux traduire tout à la fois son art, son humour, ses situations dramatiques et son imaginaire. Alors, on essaye d'aller en avant, à la découverte, dans une direction qu'on a un peu appris à connaître, mais dont il reste en fait toujours l'essentiel à redécouvrir.
Oui, son humour, dites-vous, Philippe Mantard, lui dit mes pièces, et il y a la place précisément pour une forme d'humour dans ce spectacle, c'est lui dit mes pièces sont drôles jusqu'à un certain point.
Oui, je trouve que c'est juste de parler d'humour, c'est bon, comme toujours Spinoza disait que l'ironie était une manière de se moquer des autres avec une certaine cruauté. Et l'humour, c'est la façon qu'on a de se moquer de soi-même. Et ça correspond non seulement aux Anglais et à leur célèbre humour, mais à cette attitude de Pinter qui se met en cause, rit de lui-même, de la société dont il fait partie, sans attaquer les autres ni juger. Et c'est une chose qui fait, je trouve, du bien dans le monde qui pratique beaucoup l'ironie où nous vivons.
Trois personnages, donc, sur scène. Qui sont-ils ? Vous, vous tenez le rôle
d'un sans-abri.
D'un sans-abri, d'un clochard.
Je ne sais pas s'il faut dire clochard. Moi, je dirais plutôt sans-abri, mais voilà.
Ok.
Oui. Ce sont des gens qui, ayant été malmenés par une société sont assez impitoyables, sont farouches, sauvages, jusqu'à devenir parfois agressifs, et surtout extraordinairement craintifs, parce qu'ils ils ont été échaudés, et ils ont peur que ça recommence, et c'est pour ça qu'ils cherchent non seulement un abri vis-à-vis du légendaire mauvais temps anglais, mais vis-à-vis de ceux qui pourraient leur réserver un mauvais sort. Donc, ils ont appris à se méfier. Et ils tâchent de cohabiter dans cet abri que Pinter leur propose, une maison en mauvais état, qui était la maison de la mère des jeunes. La mère est morte, ils y sont toujours.
Donc ce sont deux frères.
En principe, ce sont deux frères. Mais Pinter ne le précise pas dans sa distribution. Il laisse aux gens, de toute façon, au public, la responsabilité de choisir s'ils sont deux frères humains, deux frères de rencontre ou deux frères consanguins. Il écrit toujours un homme de tel âge, mais il dit pas frère de. Ça, il laisse toujours la plus grande liberté au public, y compris au risque que le public, adaptant la pièce à ses propres réflexes, trouve tel personnage désagréable ou mal poli ou vraiment excessif. Mais on rencontre des gens excessifs et des gens extraordinairement silencieux aussi. C'est à cela que Pinter s'intéresse, comme il n'a pas cessé de s'intéresser à toutes sortes de personnes qu'on abandonnait, ça allait des mères célibataires à bien d'autres personnes.
Philippe Andrin, comment êtes-vous allé à la recherche de votre personnage ?
Écoutez, moi je regarde l'ensemble de la pièce et puis ce que font les autres. Et puis on essaye à trois de trouver un équilibre. Je me dis pas mon personnage il est comme ça parce que c'est le meilleur moyen pour se fourvoyer. On essaye d'observer ce qui se passe entre eux. Pourquoi Pinter, avec une grande précision, demande qu'il se passe ceci et pas cela à un moment, y compris un silence. Et c'est à nous d'essayer de trouver comment on va habiter ces exigences de l'auteur. Et comme c'est un auteur qui est à la fois observateur de la société et qui est un poète, et qui a un style plus concentré, ramassé encore dans sa langue originale qu'en traduction, il faut tâcher d'avoir le temps dans les répétitions de se poser à cette question.
Mais comment habite-t-on ce personnage, ce rôle ? Comment le porte-t-on ?
Une question un peu impossible. On espère qu'il va venir nous habiter. Mais on le laisse venir. Je crois que plus j'avance, plus j'ai l'impression qu'il ne faut jamais être volontaire vis-à-vis d'un personnage. Il faut le laisser venir, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit un personnage de Pinter ou de Molière, c'est Jouvet qui disait « Ne te fais pas d'idée sur Alceste, c'est pas un monsieur qui, tu vas te tromper forcément. Dis le texte et ça va te souffler une respiration qui va t'inspirer quelques éventuels sentiments. »
À propos de texte, comment avez-vous mis dans votre mémoire le texte du personnage de Sans-Abri, qui est un texte énorme?
Oh, alors ça, c'est, comme d'habitude, c'est un exercice, mais ici, vu
et une langue particulière.
Les ruptures et le fait que, il perd un peu la mémoire, et que, suite au malheur qu'il a traversé, et que, il saute d'un sujet à l'autre pour y revenir ensuite, c'est un des rôles les plus ardu à mémoriser que j'ai abordé, mais c'est en même temps un plaisir parce que c'est merveilleusement écrit, construit, et et d'oser.
Vous avez suivi avec nous l'entretien que nous a accordé Umberto Eco tout à l'heure. Vous avez un mot, un rebond sur ce qui a été dit?
Oui, non. On peut toujours discutailler à perte de vue ce qu'il dit de l'écrivain, du jeu et du mensonge. Pour nous, je crois que dans le fait de jouer un personnage, il y a on ne fait jamais semblant. On endosse un personnage et à travers lui, on témoigne en même temps d'une partie de ce qu'il est et aussi de ce qu'on est nous. Et cette chose-là, ce n'est pas du semblant ni du faux-semblant. Il y a des parcelles de vérité qui ne sont pas toutes perceptibles de la part du public. Il faut rester relatif.
Ouais. Il évoquait la fiction littéraire en disant la différence entre mentir et faire semblant.
Oui. Il n'y a pas de mensonge, bien sûr.
Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faire semblant au théâtre?
Dans le bon théâtre, non.
Et comment est-ce qu'on s'en garde de faire semblant?
Il faut tâcher de rester concret.
C'est-à-dire? Là, vous êtes trop elliptique
pour moi. Ne pas se laisser griser par n'importe quelle forme de narcissisme, de plaisir à se délecter d'être sur la scène, de se faire écouter, etc. Mais d'agir pour une personne et dans un but précis qui est de s'adresser à d'autres ou alors de marmonner tout seul, si ça doit être le cas.
Ce qui est un peu votre cas dans votre personnage.
Oui, ça lui arrive, il raconte beaucoup de choses, mais comme dit Pinter, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on raconte? En général, les gens qui ont des choses profondes à cacher emploient un torrent de mots pour se mettre à l'abri.
Merci à celles et ceux qui nous ont appelés. Il n'y a plus de place là pour parce que nous vous offrions donc pour ce soir et demain soir au Théâtre Kléber-Mello à 20h30 un spectacle que je vous recommande très fort, donc jusqu'au 10 avril prochain. C'est comment avant, c'est comment après? Comment vit-on ces moments-là de théâtre, avant l'entrée en scène et après le spectacle?
On est dans une espèce de neutralité. On fait le vide et tout à coup, en arrivant sur scène, on est repris par une nécessité. Et puis après, c'est l'intérêt... L'angoisse et le plaisir mêlés du jeu qui commande. Après ça, c'est fini et on respire encore.
Et c'est fini et ça recommence chaque soir. Le soir suivant.
Un peu différemment, mais ça recommence. Pendant un certain temps.
Ouais. Je crois savoir, Philippe Manta, que Nancy Houston sera dans la salle ce soir pour découvrir ce spectacle. Est-ce que ça change quelque chose qu'un auteur comme elle soit parmi le public?
Ça change. Comme chaque fois qu'on a un ami dans la salle, ben c'est une raison de plus pour essayer de jouer avec plaisir pour un ami, pour revenir à Jouvet. Il disait, ne joue pas pour tout un public, joue pour une seule personne. Mais en fait, on sait qu'il y a les autres aussi.
C'est ce que vous ferez donc ce soir, tout à l'heure à 20h30. Je vous remercie d'être passé nous voir, Philippe Manta, le gardien de Harold Pinter, jusqu'au 10 avril avec Mauro Bellucci et de Monvillou. Philippe Manta, des décors magnifiques d'Audrey Wong. Les lumières sont signées Marc-Étienne Desplans. Et la mise en scène, c'est vous qui l'avez signée, assistée de Delphine Lové et Michel Fidanza. On fait vite une petite information routière.
Infotrafic RSR.
Attention, on nous signale la présence d'un objet sur la voie de droite, sur l'autoroute Fribourg-Vevey entre Bulle et Vauru, en direction de Vevey, du côté de la Suisse centrale, en raison d'un accident. L'autoroute Brunnenzug est toujours fermée dans les deux sens, entre l'échangeur de Rüttihof et Cham. Des déviations sont en place et la réouverture est prévue pour 15h environ.
Presque rien sur presque tout. Une émission de Patrick Ferla.
Les filles, comment file le bonheur? Je ne suis qu'une erreur. Les filles,
comme on essuie ses pleurs, essuie dans ta douceur ce chemin. Vivre, vivre dans tes yeux, mon cœur. Je reconnais mes erreurs.
Voilà un extrait du nouvel album de Johnny Hallyday qui sera en interview avec Karine Vouyamo après à Radio Paradiso. Ce sera lundi, la semaine prochaine. Vous recommandez très vite une soirée exceptionnelle, mercredi prochain, 30 mars. Suite aux événements tragiques survenus au Japon, le Cercle Suisse-Japon et la Haute École de Musique de Lausanne où enseigne Pierre Amoyal organise un concert de soutien avec à l'affiche des œuvres de compositeurs nippons et les œuvres de Brahms et Schumann. Concert donné à la Grande Salle 2 de Lausanne, entrée libre dans la limite des places disponibles et collecte de fonds à la sortie.
Presque rien sur presque tout. Si vous souhaitez retrouver nos invités, écoutez-les cette nuit entre 3 et 4 heures du matin en nouvelle diffusion.
Avec aujourd'hui Umberto Eco pour le cimetière de Prague et Philippe Manta, le gardien de Harald Pinter au théâtre Kléber-Mello jusqu'au 10 avril. Bonne soirée pour les spectateurs et spectatrices qui découvrent ce spectacle avec la première ce soir. Et demain, merci à Jean-Claude Gailly, merci à Nathalie Schauenberg, Dany Sulam pour le site presque-rien.rsr.ch. Rendez-vous la semaine prochaine avec Yves Simon, lundi. À première vue avec l'écrivain Philippe Grimbert et Pierre-Philippe Cader, naturellement, et sur les antennes de la première, l'écho des forêts tout à l'heure à 14h. Et là, les informations tout de suite.